Et je me souviens quand il y avait, on approchait de Noël, il y avait toujours des chants, comme on a chanté là, des chants chrétiens, qu'on entendait, d'aller au parleur, d'aller au supermarché, de la musique, de religieuse. Mais maintenant tout ça c'est fini, les temps changent. J'ai un frère qui m'a téléphoné, qui s'appelait Bernardo, ceux qui le connaissent. Dans la semaine, et il était désolé parce que il disait les chrétiens, nous autres les chrétiens, on est en train de perdre nos dates. Nous sommes en train de perdre nos dates. Et les musulmans, eux, quand ils font le ramadan, on ne parle que de ça. Et nous, les dates que nous avons, on est en train de les perdre. Et il était très, très triste par rapport au fait que Noël achève de devenir une fête séculière. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça, par rapport à tout cet esprit de Noël qui devient un esprit de commerce et de business, et où il n'y a plus, voilà, ce qui faisait de Noël des instants particuliers autour de la commémoration de la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Est-ce que, allez, on peut passer? Et laisser la place au monde séculier et puis tourner la page de la commémoration religieuse de Noël, ou est-ce qu'il faut résister? Vous avez votre opinion, moi aussi j'ai la mienne. On va écouter, se remettre un petit peu à. Je vous propose d'écouter encore un texte ce matin, un texte de la parole de Dieu. Écoutez ce que les textes nous disent. En tout cas, le titre que j'ai choisi, c'est N'ayons pas honte de Noël. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on retrouve le texte de l'évangile de Luc. Luc, c'est le biographe de Jésus. Il y a quatre biographies de Jésus dans la Bible. Et Luc est celui qui a fait la biographie la plus précise, la plus datée. Il a fait un travail d'historien. Et voici ce que nous lisons donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 1 à 20, on va dire. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Donc il y a un récit qui précède, hein, au chapitre 2, il y a le chapitre 1. Parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta se faire inscrire depuis la Galilée de la ville de Nazareth. Il sera pour se rendre en Judée, dans la ville de David. Donc de la Galilée à la Judée, la ville de David appelée Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qu'il avait été annoncé. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. En ce temps-là, nous avons là une naissance historique, une naissance qui a lieu dans l'histoire de l'humanité. C'est une naissance historique pour les hommes. Luc, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, a désiré que les hommes puissent dater l'année de la naissance de Jésus. Et il a fait de quelle manière? À ce moment-là, il n'y avait pas de calendrier comme les nôtres. Il précise... Sous l'empereur romain Auguste, qui donne quatre indications, sous l'empereur romain Auguste, sous le gouverneur régional de la Syrie, qui était Quirinius, sous le règne d'Hérode, Hérode, il n'en parle pas ici, mais juste dans le chapitre d'avant, il a précisé que l'ange était apparu, et donc c'était du temps de Hérode que l'annonciation de la naissance avait été faite. Sous le règne d'Hérode, donc on le sait avec les textes qui précèdent. Et c'est également une année de recensement. Quatre informations. Alors dans l'Antiquité, les recensements demandaient de gros efforts administratifs. Et ce n'était pas populaire parce que qui disait recensement dit nouveau calcul de l'impôt pour chaque ville, pour chaque région, pour chaque pays. Voilà ce que ça signifie que de se faire recenser. Et ils étaient réguliers quand il y avait une période de stabilité politique, bien sûr, mais ils n'étaient pas si fréquents que ça. Et celui-ci a la particularité, lui précise, il était général. Il était donc facile à identifier normalement. Quatre informations pour nous permettre de situer l'année de la naissance de Jésus. 2000 ans sont passés. Et le problème de déterminer la date de la naissance de Jésus est toujours pas conclu. Hein. Auguste, on a trouvé, en faisant des recherches, qu'il avait fait trois recensements. Un en moins 28, un en moins 8 et un en 14. Donc déjà il y en a trois. Il y a eu un recensement qui était local en Judée, suite à l'échec de la succession d'Hérode le Grand en l'an 6. Et ce recensement-là, lui, il est resté dans les annales et dans les mémoires parce qu'il avait donné lieu à de grands soulèvements. Et Luc fait référence à ce recensement violent un petit peu plus loin dans un autre texte où il relate le début de l'Église. C'est le livre des Actes, chapitre 5, verset 37, où cet événement est mentionné. Donc, Quirinius, il a été légat de Syrie entre 5 et 8 après Jésus-Christ, et possiblement avant, une première fois avant, entre moins 12 et moins 2, il y a des indices, mais il n'y a pas de C'est pas gravé dans la pierre, comme on dit. Il n'y a pas de texte très clair là-dessus. Alors pour les non-croyants, si vous regardez les émissions de Arte, pour eux, il n'y a pas de problème. Luc a falsifié l'histoire. Ils vont jusque-là en parlant d'un recensement qui serait situé sous Hérode. C'était pas possible, le recensement, il a eu après la mort de Hérode et pas avant. Et pour les croyants, eux, non, ils disent, non, Luc dit la vérité, simplement, les historiens n'ont pas encore en main toutes les cartes, tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi ils disent cela. Luc tient ses informations directement de Marie. Il est bien précisé, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Luc a tout à fait, dans ses voyages, en compagnie de l'apôtre Paul, a tout à fait eu la possibilité de rencontrer physiquement Marie quand il se rendait à Jérusalem. Donc, c'est le seul qui soit... qui ait transmis ces textes-là, il devait les tenir de Marie elle-même. Et c'est difficile de concevoir que Marie ait été inventée des histoires. Luc précise qu'il s'agit également du premier recensement, qui sous-entend qu'il y en avait eu deux, il y en avait eu un autre. Il y a eu un second recensement plus tard, dont il parle dans le livre des Actes. Et là, il dit c'est le premier. Et donc on peut facilement concevoir qu'un recensement réalisé par l'administration Hérode, une administration juive, ait été bien reçu, n'ait pas causé des problèmes particuliers de soulèvement, parce qu'il avait été fait à la mode des Hébreux, c'est-à-dire servir à alimenter les registres de généalogie. C'était très important pour les Hébreux de prouver qu'ils étaient descendants d'Abraham, qu'ils faisaient partie de la nation juive. Et donc, c'était des registres qui étaient tenus, et donc la tribu, la ville de naissance, tout ça, c'était important. Et donc là, il est tout à fait possible que ce recensement n'ait posé aucun problème et qu'il ne soit pas été retenu dans l'histoire comme ayant fait des difficultés, qu'il soit passé inaperçu. Donc, voilà, suivant qu'on a confiance dans le texte ou pas, deux possibilités différentes. Mais... En tout cas, retenons que c'est une naissance historique qui a eu lieu dans l'histoire, et donc on la situe généralement bien du temps de Hérode. Il n'y a que cette question de recensement qui pose problème, mais un jour ce sera éclairci. Gardons confiance, ce n'est pas là le plus important. C'est aussi une naissance historique pour Dieu, parce que Dieu, les hommes ont leur calendrier, ils ont leur mémoire, et Dieu aussi a son calendrier, le calendrier de ses prophéties, ce qu'il annonce à l'avance et qu'il doit s'accomplir au temps où lui l'a décidé. Le calendrier de Dieu est infaillible, c'est celui de la prophétie de Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 4, la lettre aux Galates? Paul écrit ceci, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi sous-entendue la loi de Moïse, une femme donc bien sûr juive. Quand les temps ont été accomplis. La prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et il ajoute, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Surprenante prophétie, incompréhensible prophétie. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La naissance de Jésus est hautement historique pour Dieu. Un événement historique dans le calendrier prophétique de Dieu un événement majeur. Voyons les versets suivants. Une naissance historique. Versets 6 à 14. Pendant ce temps-là, le temps où Marie devait accoucher arriva, donc ils étaient à Bethléem, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici, l'ange... Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Il ne le disait pas de cette façon-là. Excusez-moi, ce devait être quelque chose de beaucoup plus beau que cela, bien évidemment. Une naissance historique, une naissance incompréhensible pour les hommes, mais glorieuse pour Dieu. Une naissance incompréhensible pour les hommes, mais glorieuse pour Dieu. Incompréhensible pour les hommes. Une femme vierge qui donne naissance à un enfant, c'est incompréhensible. Le Fils de Dieu, dans un corps humain comme le nôtre, c'est incompréhensible. Pourquoi le Fils de Dieu? Pourquoi Dieu lui-même? Si on écoute le texte, regardez au verset 9, écoutez. « Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Et le mot « Seigneur » ici désigne Dieu, l'Éternel, Yahvé de l'Ancien Testament. C'est ainsi le mot qu'on utilisait. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, dit l'ange. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe à laquelle vous le reconnaîtrez, etc. Un enfant, emmailloté. Et les bergers disent eux-mêmes, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et donc là, il est très clair que l'enfant qui est né, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, celui sur qui repose toute l'autorité, toute la domination. C'est Dieu lui-même et nul autre que lui. Qui naît de cette façon dans la crèche. Et voilà un bouleversement qui va y avoir dans la conception que les hommes se faisaient jusqu'à présent de ce qu'est l'autorité. De ce qu'est l'autorité. C'est tout un développement qui pourrait être fait là-dessus. Peut-être grâce à Dieu, on y reviendra l'année prochaine. Le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même dans un corps humain comme le nôtre. Scandale, folie pour les hommes. Et le Messie qui n'a pas de place pour naître, ça aussi. Hein? Il naît isolé dans une étable. C'est un fait qui est tellement surprenant, tellement incompréhensible pour nous. Et cette information, elle est donnée à de simples bergers. Une naissance incompréhensible pour les hommes, mais une naissance glorieuse pour Dieu, annoncée directement par un ange de Dieu. La seule et unique fois également que la Bible nous rapporte, qu'on est dans l'histoire de l'humanité, Excuse-moi, Maria. Maria. Dans l'histoire de l'humanité, où une armée d'anges descendent sur la terre pour chanter les louanges de Dieu. Ça s'est vu nulle part avant et c'est aura lieu nulle part après. Une naissance incompréhensible pour les hommes, mais une naissance glorieuse pour Dieu lui-même. Voyons le texte d'après. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qu'ils les entendirent firent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Une naissance confiée aux hommes. Une naissance confiée aux hommes. Il y a une passation de relais entre les anges et les hommes. Les anges ont quitté la terre pour remonter auprès de Dieu. Les anges n'étaient pas destinés à rester sur la terre. Celui qui était destiné à rester sur la terre, c'était l'enfant. C'était l'enfant. Dommage que la chorale se soit arrêtée. Dommage que les chants aient cessé. Mais le principal et le meilleur était que, d'accord, les anges sont partis. Mais l'important, c'est que le Sauveur est resté. Le Sauveur, lui, est resté. Les bergers, également, j'ai noté que dans ce passage, les bergers ont dû aller chercher l'enfant. Il y avait un travail qui devait être fait pour eux. Les anges ne les ont pas conduits devant l'enfant. Il leur donnait un signe remarquable, un enfant qui est né et qui est couché dans une étable. C'était pas fréquent à l'époque, comme ce n'est pas fréquent aujourd'hui. C'est quelque chose là aussi d'assez extraordinaire, exceptionnel, et donc là ce signe ne pouvait pas se tromper. Il leur suffisait d'aller fouiller dans les étables et ils trouveraient une table avec un enfant. C'est ce qu'ils ont fait, c'était des bergers. Ils avaient l'habitude des troupeaux et ils ont été chercher dans une étable le Fils de Dieu. Ils avaient un travail à faire, ils avaient un rôle actif, chercher l'enfant. Et les bergers sont finalement, dans cette passation, devenus les témoins. C'est eux qui étaient les témoins de cette naissance-là, des témoins et des proclamateurs de la naissance du Messie et du Seigneur. Vous avez vu comme ils ont témoigner de ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu l'enfant. On leur avait dit, ils avaient entendu les anges et ils avaient vu le petit enfant. Ils avaient vu le Messie. Ils avaient vu le Sauveur. Ils avaient vu le Seigneur. Ils avaient vu Dieu incarné dans un petit bébé. Et ils ont transmis cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus jusqu'à ce jour. J'ai noté également qu'ils l'ont fait ensemble. Ils n'ont pas été, si on comprend le texte, un d'un côté, l'autre de l'autre, chacun à la recherche du Sauveur dans l'étable, mais ils ont été ensemble. Ils se sont dit, on va dans celle-là, on va dans celle-là, on va dans celle-là. Ils ont fait ce job ensemble. Et le texte dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Et certainement, le texte ne le dit pas, parce que Luc n'a pas rencontré les bergers, visiblement. Il a dû rencontrer Marie qui lui a confié cela. On peut imaginer que les bergers eux-mêmes, chacun, personnellement, ils repassaient ces événements qu'ils avaient vécus dans leur cœur et qu'ils ont dû repasser ça toute leur vie. Et toute leur vie, ils ont dû témoigner de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils avaient, entendu et de ce qu'ils avaient vu. Personnellement, un travail qui est fait ensemble et un travail qui est fait personnellement. En tout cas, l'annonce d'une naissance qui est confiée à des hommes, Alors, en conclusion, je pense que on ne va pas avoir honte de la naissance de Jésus, des conditions dans lesquelles il est né, et voilà. Au contraire, on peut le célébrer joyeusement. Je crois que le Seigneur, il a montré, avec ses anges, il a envoyé que, voilà, c'était quelque chose qui était extraordinairement joyeux, et que c'était quelque chose qui pouvait être célébré et fêté dans le peuple de Dieu. Soyons heureux donc en repensant à Noël et à tout ce qui s'est passé une nuit à Bethléem. Donc il y a quand plus ou moins 2030 ans, les années passent, les générations passent, mais le souvenir reste de cet événement. On peut donc témoigner de cet événement historique, extraordinaire, glorieux et précieux dans le cœur de tous ceux qui placent leur confiance dans la véracité de cet événement, qui placent leur confiance dans le Sauveur, dans le Messie, comme Marie l'a fait dans le texte du chapitre 1. C'est notre responsabilité, quelles que soient les circonstances, et même si dans la société les chrétiens aujourd'hui pèsent pas plus que les bergers de l'époque, ça fait rien. La chorale des anges est maintenant remplacée par des chorales humaines. Alors on va essayer de chanter tout à l'heure, le mieux qu'on peut. Ce ne sera pas comme les anges, c'est sûr, mais le cœur y sera. Voilà. Nous avons raison de chanter, je pense, comme les anges avaient raison de le faire. Et on peut repasser ces choses dans nos cœurs. Bien sûr, on ne peut pas les repasser seulement le jour de Noël. Il n'y a pas eu de commémoration officielle de Noël pendant très longtemps dans l'Église de Jésus. Mais je suis sûr que toutes les personnes qui ont eu entre les mains l'évangile de Luc ont dit « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu est venu parmi les hommes. » Quelle chose extraordinaire pour toute l'humanité, une date marquante de l'histoire de l'humanité. Amen.
Amen.
Prier. Si tu veux prier.
Ouais. Oui, Seigneur, on n'a pas fini de nous émerveiller, Seigneur, devant ce que tu as fait et dans ton calendrier parfait, Seigneur, Jésus est né, Seigneur, Dieu parmi les hommes, merci. Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, on veut vraiment nous le rappeler et Seigneur, être aussi ton Église, ces porteurs de bonnes nouvelles, Seigneur, pour tout le peuple, Seigneur, tu es venu pour tous. Merci Père de ce rappel et c'est vrai, on ne peut pas imaginer ce cœur des anges et merci parce que tu prends plaisir, Seigneur, à notre louange, Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur, t'apporter. C'est après-midi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.